du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'appel des apôtres. Notre Seigneur a demandé à Pierre de s'éloigner un petit peu avec sa barque pour qu'il puisse prêcher du rivage. Puis ensuite, il les amène en eau plus profonde. Et là, il va lui demander de lancer les filets. Ils avaient pourtant passé toute la nuit précédente à pêcher sans rien prendre. Cependant, la voix du maître Saint-Pierre va obéir, va lancer le filet. Et le filet va revenir rempli de poissons. Cette mer profonde, nous disent les pères de l'Église, représente bien sûr le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, et notre Seigneur va lancer le filet pour essayer de rattraper des poissons. Le problème, c'est qu'à l'époque, il faisait des pêches miraculeuses, aujourd'hui, il y a peu de poissons dans la mer, comme on dit. Alors, notre Seigneur va revenir vers le rivage, et Saint-Pierre va tomber à ses pieds. Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va l'appeler pour lui demander de le suivre. À partir d'aujourd'hui, lui dit-il, vous ne pêcherez plus des poissons, mais des âmes. Et donc, c'est le moment où notre Seigneur Jésus-Christ va choisir déjà une première élite, l'élite des apôtres, pour en faire ceux qui allaient transmettre, commencer dès maintenant à transmettre, à se former pour pouvoir transmettre plus tard le dépôt de la foi catholique. Bien sûr, notre Seigneur a appelé à lui cette élite des apôtres, mais il faut bien comprendre que cet évangile, mes bien chers frères, s'adresse à nous aussi. Nous aussi, le bon Dieu vient nous chercher. Certes, nous ne sommes pas des apôtres au même sens qu'eux, mais nous devons devenir au moins des apôtres au sens figuré. Le bon Dieu cherche aujourd'hui une nouvelle élite. Et il veut aussi venir nous chercher pour que nous aussi, nous puissions prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et donc tous, nous devons suivre notre Seigneur. Il ne faut pas croire que seuls les apôtres sont appelés. Bien sûr, les apôtres sont appelés pour un rôle très spécifique, celui d'être les premiers fondateurs de l'Église, les premiers évêques de l'Église catholique, mais le bon Dieu appelle chacun d'entre nous. Tous les catholiques sont appelés. D'une certaine façon, certes pas au sacerdoce, tous, mais certains sont appelés au sacerdoce, mais le bon Dieu appelle chacun d'entre nous à la sainteté. L'appel à la sainteté, mes bien chers frères, est un appel universel. Tous les chrétiens, à partir du moment où ils sont chrétiens, ils sont catholiques, ils ont été baptisés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tout chrétien baptisé est tenu à la sainteté. C'est une obligation. Parfois, on entend des catholiques dire des bêtises énormes du genre « les prêtres sont tenus à la sainteté », comme si les prêtres seulement étaient tenus à la sainteté. On est créé, on est passé sur la terre pendant un certain temps, mes bien chers Marie, mes bien chers amis, pour aller au ciel. Or, il n'y a que les saints qui vont au ciel. Donc tous, nous sommes tenus à la sainteté, tout simplement, pour pouvoir aller au ciel. Il y a cette obligation grave pour chacun d'entre nous, donc il ne faut pas dire simplement, les apôtres sont appelés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous appelés d'une façon différente, bien sûr, parce que chaque âme est différente, mais le bon Dieu appelle toutes les âmes aussi à la sainteté. Le chemin de sainteté peut être différent pour toutes les âmes. Les croix que chaque âme aura à porter peuvent être aussi différentes. Le bon Dieu donne à chacun d'entre nous des croix différentes en fonction des grâces qu'il nous a données pour que nous puissions aller au ciel avec ses croix. Et donc, puisque nous sommes appelés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons, mes bien chers frères, faire très attention justement à commencer ce grand combat qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi catholique qui consiste à mettre en dehors de notre âme les choses mauvaises qui se sont introduites dans notre âme par le péché originel. Le combat de la foi, c'est quoi? Le combat de la foi à laquelle nous sommes tous appelés par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le combat qui consiste à chasser les concupiscences. Depuis le péché originel, nous avons en nous les concupiscences, c'est-à-dire des désirs désordonnés, des désirs de choses dont nous n'avons pas le droit, pour lesquelles nous n'avons pas le droit. Des choses qui ne doivent pas être dans nos âmes. Et donc, c'est un combat permanent, justement, contre ces trois concupiscences. Et n'oublions pas que le baptême, s'il enlève le péché originel, maintient dans l'âme, malheureusement, maintient dans l'âme les conséquences du péché originel, la concupiscence. Les trois concupiscences sont une de ces conséquences. Et donc, il va falloir nous battre contre ces trois concupiscences, les yeux, la chair et l'orgueil. Tous nous sommes tenus à ce combat. C'est les personnes qui sont dispensées de ce combat sont les personnes qui sont sans péché originel. Il y en a que deux. Très Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était dispensé du combat parce qu'il n'avait pas le péché originel, a voulu porter sa croix, c'est bien pour nous indiquer que nous qui sommes responsables, qui avons des responsabilités pour nos péchés, qui ne sommes pas innocents comme notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie, nous devons nous porter la croix. Donc le premier de ces combats, consiste à essayer de réfréner et de mettre dehors, si possible, la concupiscence de la chair. Première des concupiscences. Concupiscence de la chair qui nous pousse justement à désirer tous les péchés d'impureté que le bon Dieu a interdit par le 6e et le 9e commandement. Et donc pour pouvoir lutter contre ces tentations, il nous faut, mes bien chers frères, avoir la vertu de chasteté, la vertu de chasteté qui nous rend forts comme des soldats qui se battent contre l'ennemi. Une des racines latines du mot chasteté, c'est castra, castrorum, c'est le camp militaire. Pour bien montrer qu'une âme chaste est une âme qui devient forte. Une âme chaste est une âme qui s'entoure d'une protection, comme d'une muraille de protection pour empêcher le démon de rentrer dans cette âme. Et donc nous avons besoin de cette force du bon Dieu, la vertu de chasteté, pour mettre dehors la concupiscence de la chair. Et les anciens rajoutaient une autre chose. Ils disaient toujours, et avec raison, que pour lutter contre la concupiscence de la chair, il fallait introduire dans l'âme le jeûne, dans le corps le jeûne. Le jeûne a toujours été considéré dans l'Église catholique comme un des moyens privilégiés pour lutter contre les tentations de la chair. Donc quand nous sommes exposés à beaucoup de tentations contre la chair, il faut essayer de jeûner un petit peu, de mortifier le palais, mortifier la nourriture, l'absorption de nourriture, au moins sur la qualité, voire dans certains cas la quantité de nourriture, justement, pour devenir plus fort. Et devenir nous aussi comme des soldats préparés pour la bataille. Et donc il faut comprendre ce jeûne de cette façon. Et les pères de l'Église expliquaient que le jeûne n'est pas simplement un jeûne qui considère la nourriture, mais aussi qui considère toute une série de choses dans notre vie que nous devons supprimer ou au moins contrôler. Vous connaissez l'expression qui est... Excusez-moi, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le jeûne, c'est ça, pas simplement de limiter la nourriture, c'est aussi d'enlever les choses qui ne doivent pas exister dans notre âme. Si par exemple, je sais que j'ai un défaut particulier ou un défaut dominant, comme on appelle, qui détruit ma vie, ben je dois jeûner sur ce point-là, c'est-à-dire couper en quelque sorte l'alimentation spirituelle de ce défaut ou de ce péché. Donc le jeûne doit être pris au sens large, ce n'est pas simplement un jeûne sur la nourriture, c'est aussi un jeûne qui considère toutes les choses qui sont dans notre âme de façon déraisonnable, contre lesquelles il faut lutter. La deuxième concupiscence, c'est la concupiscence des yeux. Concupiscence des yeux qui nous fait désirer justement tout ce qui est autour de nous de façon déraisonnable. Eh bien, pour lutter contre cette concupiscence des yeux, il va falloir cette fois-ci l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté qui va justement nous aider à vaincre cet esprit de pauvreté, ce désir de toutes les choses qui sont autour de nous. Et les pères nous disaient, pour pouvoir pratiquer cet esprit de pauvreté, il faut l'aumône. Donc le jeûne, puis l'aumône. L'aumône, encore une fois, ne doit pas être pris au sens strict du terme. Les pères le prennent dans un sens beaucoup plus général. L'aumône, c'est faire donner aux pauvres, strictement parlant, aider en bien matériel les gens qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin. Mais il faut prendre ça au sens beaucoup plus général. C'est cette expression qui a un peu disparu aujourd'hui. On disait parfois, faites-moi l'aumône d'un sourire. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la chose. Donc l'aumône, ce n'est pas simplement Donner une petite pièce à un pauvre dans la rue, c'est beaucoup plus que ça. C'est donner au prochain des choses que le bon Dieu me demande de leur donner. C'est beaucoup plus difficile. C'est facile de donner une pièce de 20 centimes à un pauvre dans la rue. C'est beaucoup plus difficile de donner un sourire à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est beaucoup plus difficile de donner un sourire à un membre de notre famille, par exemple, qui nous aimait prodigieusement. Eh bien, le bon Dieu nous demande justement de faire l'aumône du sourire, l'aumône d'un acte de charité à l'égard de cette personne. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot aumône. Et si on pratique cet aumône spirituel, à ce moment-là, le bon Dieu nous aidera à chasser de notre âme la concupiscence des yeux. La troisième concupiscence, c'est l'orgueil. La plus forte, certainement. La concupiscence de l'orgueil doit être vaincue cette fois-ci par l'esprit d'obéissance. C'est par l'esprit d'obéissance, justement, que nous pourrons courber, en quelque sorte, sous le joug de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons courber l'orgueil qui veut se rebiffer constamment. Et les pères de l'Église disaient, pour justement lutter contre cet orgueil, il faut cette fois-ci la prière. L'aumône, le jeûne, la prière. La prière va nous aider à lutter contre l'orgueil. Pourquoi ? Parce que par la prière, je reconnais que je suis créature. Par la prière, je me mets au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et je dis à notre Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, je ne suis qu'un pauvre serviteur, donnez-moi les grâces dont j'ai besoin pour arriver à continuer le combat. » Voilà pourquoi cette prière est absolument nécessaire. Il faut prier pas simplement pour nous, mais bien chers frères, il faut prier avec humilité et prier pour tous ceux qui en ont besoin. Dieu sait si nous avons besoin aujourd'hui de prier. Priez pour nos familles, priez pour l'Église, priez pour les hommes d'Église, afin que justement le bon Dieu puisse être constamment servi et adoré ici-bas sur la terre. Et avec, vous voyez, avec ces trois choses, donc la prière, le jeûne et l'aumône, eh bien nous pouvons, avec la grâce du bon Dieu, par l'intermédiaire des trois vertus de pauvreté, chasteté et d'obéissance, eh bien nous pouvons, avec la grâce du bon Dieu, encore une fois, nous pouvons maintenir notre âme sur le chemin qui mène au ciel en portant la croix. Certes, les prêtres, les religieux sont tenus par leurs vœux, selon les ordres dans lesquels ils rentrent. Ils sont tenus par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, au moins les religieux sont stricts. Mais nous sommes tenus tous, même ceux qui ne sont pas religieux, nous sommes tenus par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Et personne ne peut se sauver sans avoir l'esprit de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Et les gens qui sont parfaitement libres sont précisément ceux qui, par vœux, les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, ont en quelque sorte abandonné tout plaisir venant de la chair, des yeux ou de l'orgueil. Donc les gens au monde qui sont parfaitement libres doivent être trouvés où ? En principe, dans les monastères. Un moine est quelqu'un qui est parfaitement libre. Un moine est quelqu'un qui, protégé par ses vœux, en quelque sorte, a mis dehors le démon de la concupiscence des yeux, le démon de la concupiscence de la chair et le démon de l'orgueil. Et ce n'est pas pour rien que la Sainte Église a choisi comme lecture de l'Ancien Testament en ce moment, ça m'a frappé en disant mon brevet le soir, c'est pas pour rien que l'Église a choisi justement à cause de cela l'histoire du Goliath. On a commencé ce matin l'histoire du Goliath pour les matines. Vous connaissez tous cette histoire, donc du peuple hébreu qui se bat contre les Philistins, et voici qu'un géant parmi les Philistins vient provoquer les Hébreux en duel. Et Dieu va envoyer le petit David, justement, un adolescent, pour lutter contre Goliath. Et les pères de l'Église ont bien remarqué une chose très importante. David va aller chercher des pierres lisses dans un torrent sec. Il va chercher les pierres, et avec sa fronde, il va lancer la pierre contre Goliath, et Goliath va tomber à la renverse, frappé en plein crâne par la pierre lancée à toute vitesse par la fronde de David. Et les pères de l'Église font remarquer que Goliath est tombé parce que son front n'était pas protégé. Et cette protection qui manquait sur le front du géant Goliath, c'était précisément l'onction du baptême ou l'onction de la confirmation. Pour cela, qu'au moment du baptême, le prêtre fait une onction avec l'huile sainte. Il va faire une onction sur la tête pour protéger la tête qui est le siège de l'âme. Et au moment de la confirmation, l'évêque va lui aussi marquer trois fois le front du confirmé par l'huile du Saint-Crème. Pour que ce baptême, pour que cette confirmation soit pour nous comme un double casque de protection. Et à ce moment-là, si on a ce casque de protection, les dards du démon, si les flèches du démon ne peuvent rien faire. Donc le Goliath est tombé parce que son front n'était pas protégé par les sacrements. Donc le symbole, si vous voulez, des païens qui n'ont pas reçu les sacrements ou des catholiques malheureusement trop faibles pour s'approcher régulièrement du sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, qui vont justement protéger nos âmes. Chaque fois que nous confessons, chaque fois que nous communions, nous accédons à la Sainte Table pour recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettons une protection supplémentaire sur notre crâne. Et comme le crâne est un symbole, il contient en quelque sorte, d'une certaine façon, symboliquement l'âme, eh bien cette âme sera protégée par justement l'onction donnée par les sacrements. Alors si nous sentons en nous la concupiscence de la chair qui se rebelle, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, eh bien il nous faut justement utiliser ces sacrements qui vont mettre une protection supplémentaire autour de notre âme pour que les traits du démon ne puissent pas pénétrer dans notre âme. Chacun d'entre nous, nous avons un problème différent. Il y en a qui ont plus de problèmes avec la concupiscence de l'orgueil, d'autres avec la concupiscence des yeux, d'autres avec la concupiscence de la chair. Quelle est celle qui progresse le plus actuellement? C'est difficile de dire. Je pense personnellement que dans le monde moderne, de plus en plus, ils travaillent avec la concupiscence des yeux. On voit très bien comment le monde moderne nous cherche à nous attirer par toutes ces lumières, si vous voulez, qui crépite dans la nuit et qui attire exactement comme une lampe qui est allumée dans la nuit qui attire le moucheron. Le moucheron vient, tourne autour de la lampe en s'amusant bien parce qu'il peut danser autour de la lampe et puis il s'approche de plus en plus de la lampe et la lampe est chaude. Il y a un moment précis où l'aile du moucheron touche la lampe et immédiatement elle est grillée. Le monde fait la même chose avec nous. Il nous attire pour qu'on vienne danser autour des choses, des fontaines, des sirènes du monde moderne. Mais malheureusement, dès que notre âme est touchée par le monde, elle sera immédiatement grillée et va finir par, si elle ne se reprend pas en main tout de suite, par être grillée bien plus gravement encore en enfer. Alors, mes bien chers, il faut demander au bon Dieu la grâce dont nous avons tous besoin, justement pour pouvoir reprendre en nous les choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous connaissons les concupiscences que le démon utilise avec nous, nous connaissons aussi nos réactions à ces concupiscences, nous savons nos bons points, les points faibles en nous, et il faut justement travailler sur les points faibles et en même temps augmenter bien sûr la grâce du bon Dieu dans les bons points. Et à ce moment-là, le bon Dieu nous donnera petit à petit la force de maintenir à l'extérieur de notre âme ces trois concupiscences. Mais attention, même si nous avons pu mettre dehors les trois concupiscences, il ne faut pas croire qu'on peut se reposer et faire la sieste tranquillement sur le plan spirituel. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, quand un démon est chassé d'une âme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de revenir dans l'âme. Et il voit cette âme toute décorée, toute nettoyée, et l'âme était purifiée par le sacrement de pénitence, par la Sainte Eucharistie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il abandonne le combat en disant, tant pis, j'ai perdu cette âme, pas question. Il va en enfer, il cherche cette... Il revient avec sept démons pires que lui. Et il essaie de revenir dans cette âme. Et s'il arrive à revenir dans cette âme, l'état de cette âme, dit l'Évangile, devient pire que le précédent. Et donc il faut faire attention, mes chers frères. Demandons avec grâce, cette grâce du bon Dieu, avec humilité, que le bon Dieu nous donne cette force de ne jamais reprendre dans notre âme le démon qui vient d'en être chassé par le sacrement de pénitence. En demandant toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Et c'est par elle, c'est elle qui est la maîtresse de la guerre, c'est elle qui est le chef de guerre. Elle est forte comme une armée rangée en bataille. Et donc la très sainte Vierge Marie est le chef militaire qui nous aide, qui nous guide en quelque sorte pour que nous soyons suffisamment fermes afin de garder le cap qui nous mène au paradis. Et n'oublions pas aussi une deuxième chose qui me semble très importante, c'est qu'à la Sainte Vierge Marie, elle amène toujours avec elle quelque chose qu'on n'aime pas forcément beaucoup, à savoir la croix. Parce que le bon Dieu, souvent, va nous donner la croix par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, parce que si c'est la Sainte Vierge Marie qui nous la donne, cette croix, bon, c'est un petit peu plus facile à porter. Saint Louis-Marie Guillemont-Fort disait que la Sainte Vierge Marie était la confiture des croix. Justement, c'est en quelque sorte celle qui nous donne un peu de sucre pour nous faire avancer. On trouve la croix bien lourde, Alors, ta Sainte Vierge Marie nous aide en mettant un peu de confiture sur la croix pour justement nous stimuler en quelque sorte et nous aider à avancer, continuer le combat qui un jour nous amènera au ciel. Voilà ce qu'il faut demander. Voilà ce qu'il faut demander bien tous les jours, bien cher frère, ce combat spirituel qui est un combat de chaque jour, qui doit être renouvelé jour après jour et qui nous amènera au ciel. Est-ce que lorsque nous serons au ciel, que nous comprenons tout ça, l'Épître aux Romains d'aujourd'hui qui dit bien que toutes les souffrances d'ici-bas ne sont rien en comparaison justement avec le bonheur du ciel. D'un très grand saint, le saint d'Alcantara, je vais son prénom. Non, c'est pas grave, ça reviendra. Un compagnon de Sainte Thérèse d'Avila qui avait fait d'énormes pénitences pendant sa vie et qui disait, après sa mort, il est apparu à Sainte Thérèse d'Avila en lui disant « Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. » Eh bien, il faut demander justement au bon Dieu d'avoir ce courage de faire pénitence. Faisons pénitence avec la grâce du bon Dieu, avec l'aide de notre Sainte Vierge Marie, pour justement préparer le chemin en nous, éliminer en nous tout ce qui ne doit pas y être, mettre dans notre âme au contraire les choses que le bon Dieu attend, afin que nous puissions un jour tous être au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.